Juste un petit rappel de ce qu'est le juge, le livre des juges, que dans le chapitre 2, qu'on avait déjà vu, est important à se rappeler. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et qui les tourmentaient. Mais à la mort du juge, on voit encore le même séquin. À la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, donc plus que ceux qui étaient avant. Donc on voit une dégradation. Donc on voit une dégradation d'Israël en tant que tel. En allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévèrent dans la même conduite et le même endurcissement. Donc on voyait le même cycle, tristement, l'apostasie, l'oppression, le peuple qui crée l'Éternel. Mais si on est plus technique, on va voir, ils n'ont pas toujours crié. Le texte ne rapporte pas toujours qu'ils ont crié. Et même au dernier juge, ils ne crient pas à l'Éternel. Ils font le contraire. Bon, ça, on va voir ça plus tard. Délivrance de Dieu. Il y a une paix pendant un temps. Et là, tristement, il y a une rechute. On a déjà vu ça, pas vrai? On a vu ça avec Othniel, Éhud, Shammar était très rapide. Ces trois-là étaient très, très, très rapides. On a vu ça avec Déborah. Déborah et Barak, on a vu ça avec Gédéon dernièrement. Et on a même vu l'anti-juge. C'est qui l'anti-juge que moi j'appelle l'anti-juge? Abimélec, qui s'est lui-même proclamé roi. Okay. Maintenant, juste avant qu'on passe à l'autre diapo, est-ce que ça ne vous donne pas un petit avant-goût de qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire d'Israël? Il y a quelqu'un qui arrive, qui aide. Dodo, je ne vais pas dire dodo, ça c'est pas une bonne chose. Il y a quelqu'un qui arrive, qui délivre, et c'est comme si c'est eux, si eux sont pas là, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, ah, comme exactement, alors ça prend les deux, sinon les autres, ils perdent, ils s'en vont. C'est triste, non? Mais ils n'ont pas l'Éternel comme roi. Il dit, je serai votre roi, qui était dit souvent dans Deutéronome. Moïse avait dit, l'Éternel est votre roi. Je ne sais pas combien de fois là, je n'ai pas compté, mais c'est très souvent. Vous vous rappelez que je vous avais dit, là, le Deutéronome est le livre qui dit le plus souvent dans toute la Bible, tu te souviendras et tu n'oublieras pas. Et même dans un chapitre, il revient deux fois collé ensemble, ce qui est pas mal rare. On va voir aujourd'hui deux juges. Et l'introduction de Jephthé. Mais on verra pas Jephthé aujourd'hui. Jephthé commence vraiment au chapitre 11. On va voir ça dimanche prochain. On voit deux petits juges qui donnent deux petites histoires. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre dedans? Mais juste avant, avant qu'on ouvre notre Bible et qu'on lit, j'ai trouvé ça dans une de mes Bibles. Je voulais vous montrer la carte d'Israël, mais avec où ce que se passent les juges. Je pense, est-ce que c'est, il y a quelqu'un qui a parlé, j'oublie qui a parlé, mais les guerres ne se passent pas toutes dans toute Israël au complet. Donc l'histoire des juges se passe certains en même temps, d'autres un après l'autre. Donc, c'est juste pour qu'on puisse comprendre visuellement visage de haut. Othniel au début. Juge 3. Après ça, il y a eu Shammar, donc vous voyez. Donc c'est pas à la même place là. Après ça, il y a eu Éhud, tu sais, le roi Aiglon là, que je trouve que il y a tellement des analogies avec nos idoles et que comment un petit veau prend le contrôle de nous. Il y a eu Déborah qui est ici. Il y a eu Gédéon qui était plus en haut, mais qui était à Issacar. Après ça, aujourd'hui, on va voir Tola. Mais Tola, c'est un peu drôle. Il vient de Issacar, mais il va régner sur Manassé. Donc, c'est pas la même contrée. Puis il y a Yaïr, l'autre bord du Jourdain, qu'on va voir. Donc ça vous donne juste vous donner une idée. Il y a plusieurs qui pensent que Tola et Yair étaient en même temps. on ne sait pas pour de vrai. La vraie raison, c'est qu'on ne sait pas. Et on va voir le début de ce qu'est-ce qui se passe au bord du Jourdain avec Jephté. Juste pour que vous sachiez quand on va lire, Amon est ici. Amon, hein? Les Philistins sont ici, sont juste ici. Moab, ça, Moab est là. Donc c'est juste pour vous de, que vous puissiez voir. J'ai une autre carte, j'ai fait comme Isaac, j'ai demandé au AI de faire une carte pour vous montrer tantôt. Ok, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et AI ne fait pas une carte comme ça. Hein. Ok? Ouais, ça c'est une copie d'une Bible, à part ça. Ok? Ouais, j'ai essayé de faire la meilleure photo possible, mais j'ai pas trouvé rien d'autre aussi clair, le plus proche de la réalité. C'est vraiment cela. Non, mais ça vous donne une idée. Tous les autres qu'on va voir, mais vous allez voir, il y a deux autres dans Juda et il y a un autre dans le nord. Donc ça nous donne donc toute la période des juges affecte tout le pays d'Israël, mais de manière différente. Mais on voit que ça va de pire en pire, par contre. Donc lisons. J'aimerais vous proposer qu'on va lire Juges 10 en quatre parties ensemble. Donc j'aimerais avoir quelqu'un qui se prépare pour lire un verset 1 et 2. On va lire étape par étape parce qu'il y a comme une suite. C'est sûr qu'il y a une grosse partie 6 et 16 ici qu'on va voir. Mais allons avant étape par étape. Qui pourrait lire pour nous Juges 10, 1 et 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que... Deux versets pour parler d'un juge. Il a régné combien de temps? 23 ans, et on dit rien d'autre que ça. Qu'est-ce qui se passe avec... qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Pourquoi qu'il y a juste deux versets sur un juge qui a régné 23 ans? Et le dimanche prochain, on va parler d'un juge qui a régné 6 ans. Et c'est presque deux chapitres.
C'est pas très froid, c'est une période de stabilité.
C'est une période sûrement de stabilité. Donc pendant un temps, c'était assez stable. Donc on passe vite. Donc, on voit que l'auteur des juges a un but. Il y a un but clair. Exactement. On ne veut pas savoir comment qui a été délivré. Ça se peut que ce n'est pas un bon gars ou un mauvais gars. Ça, on ne sait pas. Le but, c'est que montrer que c'est l'Éternel qui a délivré son peuple par un gars. Ça demande aussi l'humilité. Hein. On n'a pas besoin de savoir notre histoire de comment on a servi l'Éternel. Et si j'aime la brève mention, c'est 23 ans, excusez-moi, je me suis trompé, la brève mention de Tola, après les horreurs d'Amibélec, grosse horreur qu'il a fait, et ils sont pas très loin. Ça demande que Dieu est au contrôle. Ça demande que Dieu n'ait pas besoin de faire un show pour montrer sa gouvernance. Il est en contrôle, qu'on nous on voit ou qu'on ne voit pas.
Est-ce que tu sous-entends que dans le cas des juges qui ont été la réponse de Dieu au cri d'Israël, celui-ci, ces deux-là n'ont pas été le résultat d'un cri?
Ça veut dire on ne sait pas pour de vrai. Mais pour le deuxième, c'est un peu plus clair. Il y a des indices. Mais pour Tola, on sait juste que pour Tola, ils ont délivré Israël. On ne sait pas si les enfants d'Israël ont crié pour. On sait juste que Dieu l'a suscité pour délivrer Israël. Est-ce que parfois, quand on est nous, dans la rébellion, est-ce que Dieu vient nous chercher malgré notre gré parfois? Donc, je ne vais pas vous donner d'exemple, mais je pense que Dieu n'a pas besoin qu'on crie à lui. Crier à lui, ça le rend gloire. Mais il prend soin de ses enfants. Combien de fois que nous, on a tous nos enfants, là, nos petits, là, nos nièces, combien de fois qu'on les a corrigés ou qu'on les a pris de là où ils étaient sans leur gré? Parce qu'on les aime. Mais c'est bon qu'ils demandent de l'aide, par contre. C'est bon. Mais ce n'est pas tout le temps, par contre. Dieu est en contrôle et il fait grâce. Moi, je suis sûr, arrivé au ciel, je suis convaincu que j'ai fait « Waouh! Seigneur, tu m'as fait grâce là. » Et je ne savais pas. J'avais aucune idée. Il y a beaucoup de choses que je pense que je ne réalise pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que Israël ne réalise pas, que l'Église ne réalise pas, comment Dieu prend soin de son Église, comment Dieu prend soin de son peuple. On n'a aucune idée, c'est malade. Ça démontre que Dieu est fidèle. Il est fidèle à ce qu'il dit. Ce qu'il a prononcé, il est très fidèle. Il fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, prendre soin de son peuple. Tola, issu d'Isaacar. Il est d'Isaacar, hein. Est-ce que vous vous rappelez, c'est pas la même place, hein. Il est Isaacar, il va régner où? Il va délivrer où? Proche d'Éphraïm, au nord d'Éphraïm. Non, mais il fut juge pendant 23 ans, il mourut à Shamar, ça c'était en Éphraïm. C'est juste là, Shamar. C'est même pas chez, c'est pas là où ce qui, c'est pas là où ce que ses parents, qui vient.
Par là, on entend la tribu.
La tribu. On parle de la tribu. Donc, on voit que comment Dieu utilise quelqu'un, nowhere. Ben, c'est pas un nowhere, il est pas très loin. Mais pas la même tribu pour sauver. Mais ça, par contre, c'est une première dans l'histoire des juges. Quelqu'un d'une autre tribu qui va délivrer dans une autre tribu. Tu sais, Dieu fait des choses à sa manière. Mais ce que j'aime, c'est sa fidélité pour nous. Et nous, on est appelés à servir humblement comme toi là. Mais on connaît pas son histoire. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, Osée, on ne sait pas les vrais inventeurs. Et il m'avait dit un exemple, j'aime beaucoup la nourriture, j'aime beaucoup le poulet. Hein. Tu sais, Kentucky Fried Chicken, au départ, il y a très longtemps, okay, dans mon jeune âge, on mangeait des bons. Puis là, il dit, ce gars-là, il a fait des bons poulets. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais que c'est sa cuisinière, c'est pas lui qui l'a inventé. Mais elle a fait son travail, elle a été payée pour faire ça, elle a fait. Et quand j'étais à Kentucky, il y avait une histoire sur elle que j'ai pu lire. Comment que elle, c'est elle qui a fait faire son maître riche avec son poulet, avec sa recette. Il y a beaucoup d'histoires qu'on ne sait pas derrière. On ne sait pas comment Dieu a agi.
Dieu a sauvé le
calendrier. Amen. Oui, par la suite.
Ouais.
Donc, tu sais, on ne sait pas comment Dieu agit. C'est comme Moody. Vous connaissez le Moody? Donc, le gars qui est venu... Oui, exactement. Mais lui, je ne sais pas si vous saviez, mais il y avait un missionnaire qui lui a parlé de l'Évangile. Ce missionnaire, il s'est plaint à Dieu pendant longtemps. Il dit, je te sers fidèlement. Je te sers fidèlement. Franchement, j'ai oublié combien d'années. Je ne vais pas donner de chiffres parce que j'ai oublié le nombre d'années. C'est des décennies. Il dit, je ne vois aucun fruit. La seule personne qui s'est convertie, devinez c'est qui? Maudit. Vraiment pas. Et qui a changé, qui a eu une influence, pas seulement en Amérique, mais en Asie, en Afrique, en Europe. Encore aujourd'hui, on a les héritages de Maudit. Oui. Donc, c'est juste pour montrer que Dieu fait ces choses comme qu'il veut. Il nous demande d'être fidèles. On n'a pas besoin de savoir.
Ça fait penser, quand on était au camp de boulot, on a eu Jean Gastic. Mm-hmm. Et puis, pour les personnes qui sont un peu plus âgées, comme nous, on a bien connu Jean Gastic. Et puis, il était à un moment donné en France, même s'il parlait à peine français. Et puis, il dit, je vais être missionnaire en Amérique, aux États-Unis. Et je sais que je vais recevoir à un moment donné des billets pour aller prier pour ça. Je vous demande si ça va venir par la poste. Un homme d'une foi extraordinaire. Mm. Et puis, à un moment donné, le vendredi, rien. Le samedi matin, le postier arrive. Il dit, j'ai oublié de vous remettre ceci. C'était le billet d'avion pour qu'il aille aux États-Unis. C'est une histoire extraordinaire, mais la foi de ce... Il dit, j'ai fait, et pour que Jean Gastic dise ça, j'ai fait ta volonté. Wow! C'est extraordinaire quand on voit ça. Et ce qu'il a fait même aux États-Unis, c'est... On pourra en parler pendant 3 heures, c'est un témoignage de foi exceptionnel.
Et ça nous dit, et ça, si tu me permets, je vais ajouter qu'est-ce que mon fils m'a dit ce matin dans la voiture en venant ici. Il y a beaucoup trop de personnes qui vivent pour les caméras. Qui vivent pour les caméras. Maintenant, je parle pas de Hollywood, là, quand je dis ça.
fille, là, tu te mets sur Facebook, et voilà.
Facebook, c'est très passé. Là, c'est Instagram et autre chose. Là, j'oublie. Il me l'a dit, mais j'ai oublié. Envie pour être vu. Ce que j'aime dans l'existence de Tola, c'est tellement bref, mais ça parle tellement de... Juste de servir Dieu. Juste d'être son instrument inutile. J'aimerais juste qu'on puisse lire un verset. C'est suite à une histoire que Jésus parle de pardon, de pardonner. C'est suite à... Et attention, si tu fais tomber quelqu'un, un de mes proches, hein, c'est vaut mieux que l'on mette une mule à ton cou et ton geste dans l'eau. Et d'avoir la foi tellement pour faire bouger un figuier de place. Et là, Jésus donne une image. Okay? Il donne littéralement une image et il l'explique. J'aimerais que quelqu'un puisse lire Luc 17, verset 10. Les paroles de Jésus, qui explique lui-même cette parabole-là d'un esclave qui revient des champs, son maître ne va pas lui dire « Assis-toi et prends un brique et serre-moi après. » Non. Sers-toi, serre-moi, quand j'ai fini de bien manger, là, toi, tu vas te reposer. Donc, c'est un peu complexe de faire dire ça, mais qu'est-ce que Jésus dit au verset 10, qui explique lui-même. Une chose qu'il explique, parce que si ce serait moi, j'aurais peut-être une autre explication. Mais Jésus explique. Qui pourrait le dire, s'il vous plaît?
Vous demain, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire.
Wow! Nous sommes des
serviteurs inutiles.
Dans le grec original, c'est pas le mot serviteur qui est écrit. C'est doulos. Doulos, ça a une seule signification. En hébreu, ça les deux. En grec, ça a une seule signification. Il y a un autre mot pour serviteur. C'est esclave. On n'aime pas beaucoup ce mot-là. Je pardonne Louis II parce que il a fait un super beau travail de traduire la Bible pour nous. OK? En français. OK? C'est un super beau travail qu'est-ce qu'il a fait. Mais je vous dis, puisqu'il est un peu prude, il choisit ses mots. Mais c'est esclave. Oui, parce que c'était pas bien vu. Mais le mot, là, c'est esclave. Et il dit quoi? Il dit, qu'est-ce qu'il dit de dire? Nous avons fait qu'est-ce que nous venons de faire. Donc, il faut faire qu'est-ce que Dieu nous demande de faire. Et nous sommes des serviteurs inutiles. On dit pas ça souvent, hein. Moi, je peux vous dire, quand je rencontre des pasteurs, j'en rencontre beaucoup dans mon travail, des ouvriers. Je me prends, je ne vais pas dire le plaisir, mais je me fais le devoir de leur faire lire ce verset-là, qu'ils connaissent en passant. Mais très peu qui méditent et qui apprennent par cœur. Parce que souvent, on fait quelque chose et ça nous... Je ne veux pas utiliser le mot gloire, mais même si c'est ça que je pense, c'est ça que je leur dis, oui. Okay? Mais ça leur donne du crédit parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et moi, premier en passant.
J'ai entendu le témoignage d'un pasteur qui disait que il est proche de sa père, il en a 80 et quelques années, mais un pasteur. Pour lui, son espérance, c'est d'arriver au ciel et de recevoir la gloire de toutes ces personnes-là à qui il a présenté l'évangile. Mmh. Tout le monde est le roi, tout le monde que j'ai amené au Seigneur.
J'aurais fait lire le psaume 115. C'est pas lui qui a amené. J'aurais fait lire le psaume 115. Non à moi, non à moi, non à nous. Pas à nous la gloire. Pas à nous la gloire. Il n'a pas lu le psaume 115. Il n'a pas bien compris. Parce que c'est dangereux ça. Ça, c'est voler la gloire de Dieu. Ouf. Ça me donne des frissons. C'est Jésus.
C'est pas Moïse, Abraham,
ou whatever.
Moi, je dis personne.
C'est Jésus. Exactement.
C'est sûr que dans notre tête humaine, c'est ça qu'on aimerait comprendre les choses. Pourquoi, je sais pas moi, Jean-Baptiste, Paul, pourquoi ils ont fait ça, puis comment ils ont fait. Ce ne sera pas ça parce qu'il y aura Dieu devant nous.
Exactement.
C'est ça qui va nous
diriger. Tu me fais penser à ce matin, je méditais dans Matthieu 3, dans mon culte, et puis Jean-Baptiste dit, hey, dites pas que vous êtes les pères, les fils d'Abraham, parce que Dieu peut susciter ces pères-ci comme des enfants d'Abraham. On n'a aucune gloire. On n'a vraiment aucune gloire à avoir. Dieu n'a pas besoin de nous. Comme Jésus a dit dans Matthieu 24, hey, si ce n'est pas eux qui criaient pour Hosanna, c'est ces pierres-là qui vont crier Hosanna. Dieu n'a pas besoin de nous. On est vraiment...
C'est difficile de faire comprendre ça à lui-même.
Oui.
C'est l'esprit qui va travailler ça dans nous.
Et c'est contre nature. Parce que notre société, tu fais bien, tu es récompensé, tu es glorifié au travail. Si je travaille bien, j'ai osé venir au travail. Puis quand tu vois, hey, ça flatte là, comme, c'est superbe, c'est bon là. Et on tombe dans ce piège-là. Et des fois, on lit deux versets d'un juge, on comprend pas pourquoi que c'est là. Mais si Dieu a voulu que c'est un verset, c'est pour dire que le thème est là. C'est pour ça que je voulais relire Juge 2. C'est Dieu qui libère, malgré une société qui va en défaillance. C'est Dieu qui nous libère de nos idoles. Mais il faut faire attention en créant, on dit fait, ouais, je sais pas comment le traduire bien, l'apparence.
Battu vu.
Tu comprends? Tu sais, c'est comme mes enfants disent notre aura. J'aime pas quand ils disent ça, mais c'est juste qu'est-ce qu'on dégage, extérieur. Mais notre cœur n'a pas changé. Donc, faut pas tomber dedans. Et j'aimerais vous dire, comme je dis à toutes les ouvriers que je rencontre, tu es un esclave inutile que Dieu prend plaisir d'utiliser.
Qu'est-ce qui est bon? Une attitude lorsqu'on entend ce verset-là, c'est après ça, ok, je suis inutile. Est-ce que je le reconnais?
Est-ce que vous pensez que c'est péjoratif dans ce contexte-là?
Le mot est difficile, c'est le inutile. On comprend ce que le Seigneur nous dit. Il n'a pas besoin de nous pour réussir à pour accomplir sa volonté. Mais il nous utilise.
Il nous utilise. Mais pas plaisir. Pas parce qu'il y a besoin de nous.
Il a besoin de nous.
Exactement.
Sans moi, vous pouvez rien faire.
Oui, il ne faut pas oublier le début du verset. Ah oui, il ne faut pas oublier. Juste 30 secondes, 10 secondes. Nous avons fait ce que nous devons fiers faire. Donc on a été obéissants, mais il n'y a pas besoin de nous.
Non. Oui, j'aimerais donner l'exemple des couteaux, par exemple. Des couteaux, lorsqu'on prend les couteaux, on coupe peut-être un morceau. Les couteaux ne peuvent pas se glorifier.
Exactement. Ouais. Vas-y, Pierre. Merci, ma soeur.
Il y a un prédicateur dernièrement qui a quand même parlé de ça. Tu sais, puis j'ai bien aimé la personne qui a dit ça. Il dit Dieu n'a pas besoin de personne. Mais dans sa souveraineté, il nous a inclus dans son œuvre. Dans sa souveraineté. Comment dire, il aurait pu faire tout ça tout seul. Mais il a voulu, dans sa souveraineté, utiliser son peuple pour le servir.
Exactement. Et on va voir dimanche prochain comment que Dieu va utiliser une histoire pour délivrer. Et de manière différente de ce qu'on a lu déjà. Et qu'est-ce que ça va susciter par la suite? On va voir ça. Mais Pierre, je pense que tu as absolument raison. Dans sa souveraineté, il dit, bon, je vais faire quelque chose qu'eux utilisent comme ça va me rendre gloire, de manière différente. Je vais utiliser cette pierre-là que j'ai créée moi-même, donner vie. On va faire ça. Comment on lit que Dieu utilise des méchants, et après ça, il corrige les méchants.
Il l'appelle
ça de l'éducation. Exactement.
On est exposé, il y a des fois, à cause de notre conduite, les gens nous disent, oh, t'es donc bien fin, t'es donc bien ci, mais on a l'occasion de donner la gloire à Dieu en disant, mais c'est parce que je suis chrétien, ou de s'identifier comme étant, c'est pas moi, mais c'est celui qui vit en moi.
Mmh.
Et en même temps...
Galate 2:20.
Puis, aussi. Le don que Dieu nous a donné, là, si on sait qu'il l'a donné pour le glorifier, moi je sais que si je fais un travail et je le fais pour Dieu, Dieu me donne une joie de faire le travail. Mais par contre, il ne faut pas que je me glorifie avec ça. Mais dire merci Seigneur parce que tu m'as donné ce talent-là et que tu me donnes la joie de l'exécuter.
Mmh. Amen. Amen. Mais c'est très contre-culturel et, comme dit Isaac, péjoratif. Il faut le être très conscient de cela. Que ceux qui, si on répète ça, ouh, ça scie à des oreilles, et même à nos propres oreilles, à notre propre cœur.
Être utile à Dieu, même moi, à tous les jours, Seigneur, fais que je puisse être utile et non inutile.
Et je glisse moi-même dans ce piège-là, je ne suis pas meilleur là, je veux juste le dire que c'est péjoratif même à notre propre cœur. Dodo?
Non,
oui. Ah, j'ai cru que tu avais la même. Excuse-moi. Donc, ça nous donne, après les grosses histoires d'Abimélec, voici qu'est-ce qu'il y a. Dieu, c'est un juge. Mais là, il y a aussi un autre juge. Verset 3 à 5. Différent. Et là, je vais vous demander, qu'est-ce que vous en pensez de ce juge-là? Qui pourrait lire verset 3 à 5? Juge 10, 3 à 5. Et me dit, Dodo va lire. Et me dit par la suite, la question que je vais vous poser, mais qu'est-ce que vous en pensez de cela? Avec les détails comparés à qu'est-ce qu'on vient juste de dire à Tola, et qu'est-ce qu'on a vu d'Abimelech, et qu'est-ce qu'on a vu de Gédéon avant. Vas-y, Dodo, s'il vous plaît. 3, 4, 5. Oui.
Après lui se leva Yahir, le Galaïte, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 anneaux et qui possédaient 30 villes, appelées encore aujourd'hui Bourg de Yahir, et situées dans le pays de Galaad. Et Yahir mourut et fut enseveli. À
Camon ou Amon. Qu'est-ce que vous en pensez de ce juge-là, Yahir? 21 ans, c'est ça? Qu'il a régné? 22 ans.
Il
avait
30 fils en 22
ans. Oui. Il est de Galaad, l'autre bord, on a vu, hein? Ok, je juste pour. L'autre bord du Jourdain. Ici, pas trop haut, ce que j'ai fait est en passant, juste en passant, pour vous donner qu'est-ce qu'on va voir dans le chapitre 11. Il y a un effet dedans. Donc, on veut juste pas oublier. Oh, juste avant, oui, excusez-moi. Et donc, qu'est-ce que vous dites de, qu'est-ce que vous dites de Jaïr?
Il se levait.
Il se levait. Qu'est-ce que vous voyez qu'on n'a pas vu jusqu'à présent? Depuis Juge 3, qu'on n'a pas vu.
Il n'y a pas de cri
à l'Éternel. C'est un des deux places quand il n'y a pas de cri, un des trois places qu'il n'y a pas de cri à l'Éternel. Maintenant, on peut penser, maintenant, je pas pour vous donner, aller trop loin. Le texte ne dit pas, ça ne dit pas que, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas crié à l'Éternel. Je veux juste être clair. Mais il n'y a pas de mention dedans. Exactement. Ok, donc, je veux juste vous dire ce que, on peut voir négatif ou positif, moi je ne vais pas vous amener ni dans un ni dans l'autre. Je veux juste vous dire, Dieu a pas vu que c'était bon de montrer qu'il y a eu un cri et non plus une délivrance.
Mais il a une stabilité parce qu'il a ses 30 fils, oui.
En géré. Oui,
en puissance.
Donc, dans le bord du Jourdain, il y avait une stabilité encore. Donc, on voit encore une stabilité. Oui, collé à Amon, pour être franc. Est-ce que tu me comprends? 30 villes. Mais 30 villes à un Amon, hein, qu'est-ce que ça représente de régner sur un Amon, d'avoir un Amon et de marcher en Amon? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous vous rappelez un petit peu? Non, pas l'humilité. Quand il rentre dans Jérusalem, mais il y avait une prophétie dedans. C'est lui qui montrait sur un anneau. C'est comme un roi. C'est pas le roi parce qu'il monte sur un anneau. Il monte pas sur un cheval. Un cheval, c'est pour l'armée. C'est pour aller en guerre. Un anneau, c'est pour dire que les autres, ils marchent derrière, là. Donc, les 30 fils étaient des gouverneurs. Et lui, il gérait les gouverneurs.
C'est une croche plus bas.
Exactement. Plus bas qu'un roi. Et 30 fils sur des ânons démontrent une prospérité, démontrent une richesse. Comme un cheval coûtait extrêmement cher, un ânon coûtait cher. Moins cher qu'un cheval, mais cher. Donc le gars, il avait de l'argent. Mais exactement, il y avait une prospérité en Israël.
Et quand on parle de stabilité, c'était un argent pour la prospérité aussi.
Donc si on est bien, est-ce que on est plus... Si on est bien confortable, est-ce qu'on est plus à risque d'oublier l'Éternel ou de ne pas oublier l'Éternel? Selon vous?
Oui, c'est quand il a dit, donne-moi pas trop, ni la parole que j'ai oubliée, tu
as Proverbe 38, 9. Ce que je veux dire, c'est que ça ne dit pas qu'elle m'a fait jaillir là. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que on voit des petites traces. Ok, est-ce que ça vous fait rappeler à un juge qui n'a pas voulu être roi?
Oui.
Est-ce que ça vous qu'on avait vu ensemble? Gédéon et son fils Samuel, 1 Samuel 8, quand que les Israélites vont demander un roi. On va voir que ça commence là aussi, dans la même région aussi. Quand Saül vient à la première guerre, la seule bonne action de Saül, 1 Samuel 11, c'est contre les fils d'Amon aussi. Toute la même région, ça commence là, pour être pareil que les autres peuples. Est-ce que vous comprenez? Il y a une influence. Donc ce que je vous dis, c'est que le texte nous montre qu'il y a une influence et que si on suit historiquement, oh ok, ça vient pas de loin là. Mais il y a une stabilité dans ce temps-là. Je pense que ce que l'Éternel veut nous montrer, c'est stable, même si c'est prospère. Mais, trois petits points. Ah, mais oui, ils vont tous mourir. Ils vont tous mourir. Mais ce que je veux juste vous montrer, c'est que, il y avait une stabilité. Lui, il gérait sur les 30. Sur ses 30 enfants, et les 30 enfants géraient les villes. Est-ce que vous vous rappelez qui devait gérer les villes et enseigner la Torah?
Les Lévites.
C'est eux qui devraient faire ça. Et qui devait être le roi? Il y a quand même un manque ici. Tout le monde comprend? Il y a quand même un manque que la parole de Dieu ne nous dit pas. Mais ça anticipe un roi. Quand Gédéon, juste avant, ne voulait pas être roi. Est-ce que vous voyez?
Mais on a dit aussi que, dans nos discussions antérieures, que c'était quand même une période de démocratie.
Oui. C'est une période de théocratie. Mais on voit que il y a comme des mini-changements qui se font. Mini-changements. C'est comme si ça prépare quelque chose d'autre. Je vous le dis parce que quand vous allez lire Juge, Ruth, parce que Ruth fait partie de l'histoire de Juge, si vous voulez en historique, et puis vous tombez dans 1 Samuel avec Élie et Samuel, vous allez voir la progression de ce roi, de cette demande de roi. De faire comme les autres peuples. Qu'est-ce que l'Éternel avait dit de s'il ne cherchait pas les peuples, qu'est-ce qui allait arriver?
Il allait être influencé par les autres.
Le mot que je cherchais, c'est le mot influencé. Mm-hmm. Là, on voit tranquillement l'influence vers une royauté. Mais Dieu avait déjà prévu ça déjà. Deutéronome 17, que tu avais lu, que Zach avait lu avec pour nous, parlait déjà. Dieu avait déjà prévu ça déjà, que les peuples allaient le rejeter. C'est pas une surprise pour Dieu, là. Au contraire, c'est dans son plan pour amener le Messie. Juste être clair, là. C'est pas une surprise pour Dieu. Dieu est pas hors de contrôle, au contraire. Tout ça est prévu. Je vais juste vous montrer dans l'histoire comment ça prépare et que ça amène. Vous voyez? Maintenant, on va lire dans la période problématique. Qui pourrait juste lire le verset 6? Donc, je vais vous lire, mais pour ça, j'aimerais que quelqu'un lise le verset 6 à 16. Mais je vais juste vous lire le verset 6. Parce que j'ai une petite photo à vous montrer, faite par le AI. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils rendirent un culte au Baal et aux Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux d'Ammonides, les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils ne le servirent plus. Waouh! Ce verset-là, il est fort! Et gros et lourd de sens. J'ai demandé à AI de faire une petite une petite image, ok, qui est vraiment pas si mythique. Et bien, parce que les Philistins sont à peu près ici, les Siméons sont là pour de vrai. Mais en tout cas, vous comprenez? Puis il manque Ruben, Manassé et un autre là. Attends, Manassé est en haut, est ici. Et ici, c'est quoi encore? Gad et Ruben. Voilà, il manque des tribus là, au bord du Jourdain. Ok? Donc, je veux juste vous dire, AI n'est pas parfait, hein. Mais, ça nous donne, hein. Ils servent quoi? Les quatre dieux qui sont autour d'eux autres. Ils servent les quatre dieux. Et là, c'est pas juste une région, en passant, juste être clair. Là, c'est l'ensemble. Tout le monde suit? C'est tout Israël, là. Donc, avant, c'était une partie là, c'était une partie. Mais là, maintenant, on voit que c'est tout Israël. Tous les dieux autour. L'influence de tout autour. Ça me parle de notre cœur, ça, non? Mais il fallait que je vous montre ça, visuellement. Parce que c'était un peu dur pour moi de vous dire, ça c'est à Chypre. Là, ça parle de... Est-ce qu'une photo vaut 1000 mots? C'est juste pour nous dire, pour nous. C'est pareil pour notre cœur. Si on laisse des mauvaises influences, si on laisse les influences, les mauvaises... Et moi, je crois que Dieu nous a créés des êtres influençables pour l'adorer. Mais si on laisse n'importe quoi qui va nous amener pas à Dieu, à adorer Dieu... Ça va nous influencer pour nous éloigner de Dieu.
Et libère notre obéissance.
Amen.
C'est le cœur de
Dieu. Exactement.
Ça va aussi dans le jardin d'Éden.
En doutant la parole de Dieu. Donc, je trouve ça fort de voir, quand j'ai fait la recherche, où était chaque région. Je me suis dit, oh, ok, ça c'est clair. C'est bon de voir une image, de voir les territoires pour savoir, ok, c'est tout autour d'Israël. C'est pire. Ils ont pris de tout, sauf Israël. Sauf le Dieu d'Israël. Oui, voilà. Ça va de pire en pire, tristement, pour Israël.
Mais... Je me demande aussi si c'est pas... Si la génération, jeune génération, n'a pas responsable de tout ça, le fait qu'ils n'ont pas été enseignés. Je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas été enseignés, mais... C'est vrai, l'enseignement n'est pas le cœur. Le cœur, ça ne demeure pas dans le cœur parce que cette influence-là, je ne peux pas croire que ce sont les autres, les vieux, on parle 40, 50 ans plus tard. Eux, est-ce qu'ils grandissent? Est-ce que. Je blâme personne.
Ça a dégénéré.
Je vais te répondre après avoir lu, après quand quelqu'un lit pour nous 6 à 16. Tu poses une excellente question, Isaac, parce que pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas accès à la loi? Est-ce qu'ils peuvent pas revenir? Il est où le problème? Qui pourrait lire 6 à 16, s'il vous plaît? Quelqu'un?
Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils rendirent un culte aux Baal et aux Astarté, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des Ammonites et les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des Ammonites. Ils malmenèrent et maltraitèrent les Israélites cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les Israélites qui étaient en Transjordanie, dans les pays des Amoréens, en Galaad. Les Ammonites passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Israël fut dans une grande tristesse.
Une détresse.
Ouais. Les Israélites crièrent à l'Éternel en disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu, et nous avons rendu un culte au Baal. » L'Éternel dit aux Israélites, « Des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites, des Philistins, des Sidons, Amalek et Mahon vous ont opprimés. Et lorsque vous avez crié vers moi, ne vous ai-je pas sauvé de leurs mains. Mais vous m'avez abandonné. » Et vous avez rendu un culte à votre Dieu. C'est pourquoi je ne vous sauverai plus. Allez crier vers les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous sauvent au temps de votre détresse. Les Israélites dirent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne-nous délivrer aujourd'hui. Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël.
Wow, hein? Le verset 6 nous montre la situation. Et l'Éternel était en colère. Et on ne peut pas être surpris si on a lu Deutéronome, on ne peut pas être surpris de cela. L'Éternel avait dit déjà, pas une fois, je pense que j'ai repéré 4 fois, clairement, il dit plus que 4, mais clairement 4 fois au complet, je ne veux pas vous écouter. Et pendant 18 ans, ils ont attendu avant de crier à l'Éternel. Ben 18 ans, ça dit cette année-là et 18 ans, donc 19 ans. Au moins 18 ans. Voilà ce que je vais vous dire. Pour être resté fidèle à la parole, au moins 18 ans. Et plus de 18 ans pour de vrai. Mais au moins minimum 18 ans. Ça prend du temps.
Ça dit que ils étaient conscients de leur fidélité. Ils étaient conscients.
Très conscients. Est-ce que tu vois, c'est pour ça que je ne voulais pas te répondre tantôt. Très conscients. Et l'Éternel les a livrés, Romains 1. C'est Romains 1, là. C'est Sodome et Gomorre. L'influence autour. Ils ont préféré l'influence, être bien. Être vu, être comme les autres, mais pas être différent comme l'Éternel voulait. Ne pas adorer leur roi, qui voulait leur protection et leur amour.
Les bandits, comme des esclaves.
Comme des esclaves.
C'est ça, les bandits.
C'est imagé, hein? Mais ils les ont vendus comme des esclaves. Ils les ont livrés à leur propre convoitise. C'est juste fort, là. Puis, ça montre. Mais on voit maintenant, pareil, est-ce que vous voyez dans ce texte-là, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de l'alliance.
Mais, c'est là ma question par rapport à ça. Je compare verset 13, ok, quand je dis, je ne vous délivrerai plus, versus chapitre 2, verset 1, quand il réitère son alliance, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Comment vous voyez ça?
C'est une bonne question pour tout le monde. Je vais répondre après.
Ben, écoute, c'est arrivé plusieurs fois dans la parole où ce que Dieu dit, bon, ben, je vais détruire ce peuple-là. Donc, il le dit. Mais Moïse s'est tenu devant lui. Puis Dieu a eu compassion. Puis au verset 16, c'est marqué, l'Éternel fut touché des mots d'Israël. Donc, il a été touché, même s'il a dit, vous ne sauverez plus. En tout cas, moi, je vois un Dieu qui
d'amour.
Un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu de grâce. C'est, en tout cas, c'est...
Le mot, c'est dont l'âme sera à cause. Donc, c'est plus que touché. L'âme de l'Éternel s'est fondue. Mais c'est une bonne question, Isaac. Parce que dans la Bible, on va voir des propos comme ça. Ninive, Jonas, on a vu Jonas ensemble là. Ninive, dans 40 jours, tu sais, je vous avais montré, là, c'est 6 mots en hébreu là. Hein? C'est pas le gros évangile que nous on connaît. Hein? Et Dieu est clair, mais je pense qu'il est relationnel. Cette relation de vouloir, moi. Ah oui, tu veux adorer? Allez, crie, va crier à tes dieux. Va crier à tes dieux. Donc il y a un moment que. C'est 18 ans que l'Éternel a attendu. Hein.
Mais ça me fait penser, en tant que parent, des fois, on a des enfants qui on leur dit. Je ne te permettrai plus de faire ça, parce que d'abord, on va donner à des enfants. Vas-y, fais ça, là. On va voir après, puis on finit par.
Et on prie à genoux. On prie à genoux. Comme l'histoire, ce que moi j'appelle, j'aime pas le dire, le fils, j'aime pas ce titre-là, c'est un titre, c'est pas inspiré dans la Bible, comme le Père aimant. Comme la prophétie du Père aimant. Il voulait avoir son héritage, il a donné, il dit, mon fils était mort.
L'alliance a toujours été conservée.
Toujours. Pourquoi?
Oui, il a toujours été conservé quand même.
Oui.
mais dans la volonté de Dieu, il dit, garde, tu veux faire ça, vas-y,
fais-le.
Et tu ne veux pas que je t'aide, ben, je ne t'aiderai pas.
Et l'alliance?
L'alliance.
Mais l'alliance? Mais pourquoi qu'il y a un, c'est là? Un petit rappel dans Genèse. Pourquoi que l'alliance est toujours là? C'est pas Abraham qui a marché entre les bêtes. C'est l'Éternel lui-même. L'alliance est là à cause et par et pour l'Éternel. Et c'est ça que Jésus a fait pour nous, cette nouvelle alliance. C'est à cause et par et pour lui. Parce qu'on n'est pas capable. Donc, je veux pas qu'on pense qu'on est meilleur qu'Israël. Ok? Juste en passant. Ok? Pour moi, je pense que c'est nous. On est rebelles. Ok? Je veux juste clarifier. Ok? On est pareil. On a les mêmes défauts, les mêmes problématiques. Aujourd'hui, je veux vous amener un espoir à cela. Parce que c'est un exemple de repentance. Le chapitre 10. On va voir chapitre 11, qu'est-ce qui va arriver après, mais juste pour laisser au chapitre 10, c'est un exemple de repentance.
Tu sais, l'Éternel, le Seigneur, nous dit, garde, tu veux aller là, vas-y. Oui. Tu vas payer pour, mais tu veux y aller, tu vas payer.
Et Dieu
garde. Après, ce qu'on va faire, comme nous autres, nous-mêmes aussi, nous croyons à l'Éternel.
Exactement. Et des fois, il va dire, non, tu vas rester là, tu as besoin. Parce que c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Il y a une déchéance en Israël. Dieu met en lumière quelque chose. Qu'est-ce qu'il met en lumière? Il a dit non, tu cries juste pour que ne pas avoir la conséquence. Israël crie parce qu'il y a un peuple qui les opprime. Je veux juste comprendre une chose, ok? Je veux juste comprendre une chose, ok? Amnon est là. Il donne des problèmes ici. Puis ils s'en vont jusqu'à ici, là. En Éphraïm et en Juda. D'habitude, ça se restait dans la même localité, dans toutes nos histoires qu'on a lues jusqu'à présent. C'est pour ça que j'aime la carte, là. Ça nous fait comprendre. Ils ont traversé le Jourdain. Le Jourdain était une limite d'une frontière naturelle. Vous voyez, il y avait des crues dans le Jourdain, là. Donc, ils ne peuvent pas passer n'importe quand dans le Jourdain. C'est soit, je sais pas si vous connaissez, si vous habitez au bord de la mer, mais moi j'aime aller au bord de la mer quand la mer monte, la mer descend, tu vois ça, tu vois les marées, tu vois ça à vue d'œil. Ils devaient attendre que ça descende pour passer. Ils étaient vulnérables. Je sais pas si vous comprenez. Ils battent ici, et ils passent le Jourdain, et ils s'en vont chez Ephraïm et Juda. Et ils retournent chez eux. Et puis, année après année, saison après saison, c'est pas précisé ici, mais il repasse pendant 18 ans. C'est ouvert. Est-ce que vous saisissez la gravité? Exactement. C'est une correction. Et ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a dit, quoi? Il a pas dit, ok, je suis moi le libérateur, là, cette fois-ci. Il a dit, allez, va crier à tes yeux, aux quatre dieux là. Va crier. Va, tu les adores, vas-y. Donc si nous, on adore l'argent, j'ai juste oublié, hein. J'avoue, j'ai pas oublié, mais Astarté, c'est la sexualité, Milcom, c'est la prospérité, et c'est eux qui sacrifient des enfants. Kemosh, ça j'ai oublié. Je pense que c'est la terre, la nourriture, mais ça, j'ai oublié. Et Philistin, c'est Dagon, la fertilité. La fertilité et de l'orage. Donc, ok, on voit que c'est des différents dieux pour des différentes choses. Prospérité, nous aussi, on est dedans. On travaille, on veut avoir de l'argent, plus d'argent. Si on quoi? Si on adore l'argent.
On ne peut pas servir Dieu et maman.
Exactement. Dieu va nous livrer à notre idole, si on est rebelle. Donc, je ne sais pas combien de fois que vous avez prié pour que Dieu vous libère d'un problème, et pour le reste, vous ne voulez juste pas la conséquence. Vous voulez continuer. Combien de fois que j'ai prié Dieu pour qu'il m'enlève le problème, mais pour le reste, mon cœur n'était pas là. Mon cœur était juste, je ne veux pas avoir la conséquence. Je veux rien changer de ma vie. Je veux juste pas avoir la conséquence. C'est la même chose qui se passe avec Israël. Israël cherche la délivrance des conséquences plutôt que la restauration de la relation avec Dieu.
Écoute, Dieu le sait. Il les délivre.
Exactement. Mais cette fois-ci, il prend un peu de temps. Ok? Il va se rire. Pourquoi? Ça amène à une confession.
Une repentance aussi.
La repentance arrive tantôt, mais pas là. Okay. Elle arrive tantôt. Si tu me permets, Pierre, pas que tu as tort, oui, mais laisse-moi juste mettre un peu d'étape à...
Il faut que tu confesses avant de te
repentir. Exactement. Juste avant, je voulais qu'on lise avant Proverbe 28, 13. S'il vous plaît. Quelqu'un qui pourrait lire pour moi Proverbe 28, 13. Oh, il dit ça. Ok. Ça, ce que j'aime beaucoup. Proverbe 28, 13.
Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas.
Ok, attends, pour une petite pause. Non, celui qui essaie de nier ses fautes, ses péchés, ses erreurs,
ne réussit pas.
Il va pas, devant Dieu, il ne va pas réussir. De manière coûte que coûte, il ne va pas réussir. Même si qu'il paraît bien, même si qu'il est, que tout le monde dit, oh, toi, t'es béni, il va pas réussir devant Dieu.
Dans ma version, ça dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point.
Mm-hmm. Attends, faut juste la première phrase. Faut pas aller trop vite. Parce que ça va trop vite, on va moins comprendre la deuxième phrase. Donc, c'est celui qui ne reconnaît pas là où ce qu'il est, devant Dieu. Il va pas pouvoir avancer. Malgré tout ce que Dieu lui donne comme grâce, dans la vie, dans l'oxygène, il va pas aller bien. C'est clair? Donc ça, c'est clair. De là vient la deuxième phrase.
Mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion.
Oh! Si j'ai bien compris, peux-tu le lire en ta façon aussi?
Celui qui les avoue, il les délaisse, obtient miséricorde.
C'est la même chose. Mais le problème, c'est que pour avoir miséricorde, qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est autre chose. Combien de fois j'ai avoué mes fautes, mais je ne les ai pas abandonnées? Combien de fois que j'ai dit mes fautes, je les ai confessées, on m'a repris, j'ai dit oui, c'est vrai, mais je ne vais pas abandonner pareil?
Mais je pense que confession a une autre signification qui est plus profonde.
À vrai dire, bibliquement non, mais pratiquement oui. Donc dans notre jargon, on met confession et pardon ensemble, et repentir ensemble. C'est pour ça que je dis à Pierre, confession, mais pas de parler de repentance. Mais j'ai fait exprès. Parce qu'un mec qu'on parle, généralement confession inclut la repentance. Proverbe 28, en train de nous dire, il les sépare. Il les sépare pour montrer, et c'est ça qu'on voit avec l'histoire d'Israël. Combien de fois qu'ils ont dit, on a fait mal auprès de Dieu?
Mais par définition, repentance, c'est ça.
Repentance, c'est retourner.
Changer.
C'est partir de l'autre. Revenir sur mes voies. C'est changement.
C'est abandonner.
Ouais. Mais Israël n'a pas abandonné ses yeux. C'est Dieu.
Verset 10, c'est la confession.
Ils ont utilisé.
Et après ça, verset 16, c'est...
Exactement. C'est ça que je veux juste vous montrer. Les avouer, de dire avec notre bouche qu'on a péché, c'est une chose. C'est une bonne chose, à vrai dire. Je ne vais pas vous dire que c'est une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais ça seulement n'est pas la repentance. Exactement. Israël, confesse. À vous. Choisissez le mot que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'il fait de plus? Ce que, pour moi, je trouve ce texte-là est un modèle pour nous. Il rejette, il abandonne, il laisse derrière leurs idoles. Je vais juste vous dire une chose. Chaque dieu avait leur statuette.
Ouais, c'est bizarre. C'est mon truc. C'est la folie de l'homme. Comment est-ce que tu vas adorer des idoles? Alors que Dieu te donne des victoires réelles,
palpables. Frère de péché. Oui, le veau d'or.
Parce que Dieu,
on croyait ça dans le danger.
On
on a ces dernières semaines montré en Inde, puis je ne sais plus trop, dans le Brésil, des fêtes religieuses avec les chats. J'ai regardé ça, les photos, puis j'ai fait, mais ils sont un peuple perdu. Ils adorent des idoles, ils vont adorer telle. Ils vont les baigner dans le Gange.
Ils font pas de sauce,
mais ils sont perdus, ces gens.
Toutes sauf qu'est-ce que Dieu dit.
C'est ça. Puis tu vois ça, puis tu fais, et nous.
J'ai pas le temps de vous montrer les similitudes avec Ésode 32, mais il y en a beaucoup dans la maison, faites-le, les similitudes, il y en a beaucoup. Donc c'est une vieille histoire. Okay? Les juges sont des vieilles histoires qui se répètent. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est des vieilles histoires que ce que la parole de Dieu nous démontre avec le peuple d'Israël. Mais là, ils rejettent. Ils font comme les Éphésiens, quand Paul est allé prêcher. Je veux juste comprendre, ça coûte de l'argent, ça. Quand ils abandonnent leur idole, on a retrouvé les idoles des dieux, c'est des bouts de métal. C'est pour ça que peut-être qu'on peut avoir une image, parce que ce sont des bouts de métal. Mais les bouts de métal, là, c'est comme le veau d'or, là. C'est de l'argent. C'est du money, là, qu'ils jettent. Ils perdent de l'argent, comme si c'était brûlé. Un billet de 1000 piastres. Moi, je ne peux pas me permettre ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ils rejettent. Mais pas, ils ne font pas juste rejeter. Ils retournent et servent l'Éternel. Donc ça, c'est la repentance. C'est ça que je pense qu'on est tous appelés. Et, détail important, Dieu ne les a pas sauvés. Encore. Sans la délivrance de l'Éternel encore. Ça, c'est au chapitre 11. Donc, juste rapidement, parce que je vois que l'heure avance, il y a 5 choses que je voulais passer une après l'autre, mais j'ai pas le temps. Ce que je veux arriver au 17-18, ils reconnaissent leur péché. Ils reconnaissent que Dieu a tous les droits d'agir et de juger. Fais ce que tu veux de nous. Donc là, maintenant, ils se mettent à leur place. Ils se mettent esclaves. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et non rebelles. Ils se mettent esclaves. Ils font appel à sa grâce. Et ça, il faut appel à son attribut. Ésaïe 34, versets 6 et 7. J'aurais voulu qu'on le lise ensemble. Mais Dieu, lent à colère, riche en bonté. Et ce mot-là, c'est réserve en hébreu. C'est bonté est un mot très léger. C'est l'amour alliantiel. Ils font appel à l'alliance du mont Sinaï. J'avais préparé un petit discours, mais c'est super beau. Ils font appel à sa grâce. C'est là qu'on voit l'Éternel, un Dieu gracieux. On va dire qu'il est sévère. Alors, il n'est pas sévère, là. Il est très gracieux. Ils délaissent leurs idoles. Dieu n'a pas encore sauvé. Ce n'est pas après que Dieu a sauvé. Ça, c'est avant. La libération, c'est le chapitre 11, là. On n'est pas encore rendu là encore. Ils servent l'Éternel, ils cherchent à le connaître. Ils veulent vivre selon sa parole. Il y a un détournement de la voie où ce qu'ils étaient avant. Malgré la menace qu'on va voir au chapitre 10. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Est-ce que tout le monde le voit?
Oui.
5 choses que font Israël. C'est 5 choses que je vais nous recommander de nous-mêmes à chaque jour de faire. 5 choses pour briser ce cycle-là de revenir. 5 choses. Mais qui peut lire pour moi le verset 17, 18, s'il vous plaît. 2 derniers versets. J'aurais tellement voulu parler de Ésaïe 34, au moins. Juste avant. On peut-tu juste lire Ésaïe 34, 6, 7? Juste le lire. Excusez-moi. C'est un peu trop vite, là. Mais c'est le Dieu de grâce, parce qu'on parle... J'entends beaucoup dire que Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu sévère et mauvais. C'est pas Dieu de grâce. Hé hey! 34, Ésaïe 34, 6, 7.
L'Éternel passa devant lui en portant la main. L'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, et qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils, et sur les petits-fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération.
Ce texte-là est tellement important. C'est la seule fois que l'Éternel proclame l'Éternel. dans toute la parole. C'est la seule fois. Et si vous lisez bien toutes les prophéties, et même que dans le Nouveau Testament, il se réfère à cette parole de qui est Dieu. Donc, juste après Moïse, pour faire grâce, pour ne pas éliminer tout le peuple, il fait appel à ça. Il fait appel à cette déclaration que Dieu fait sur lui-même. Et c'est ça que le peuple d'Israël est en train de faire ici. Il fait appel à cette grâce-là. C'est super beau. Chaque élément là est très important. Et Dieu, c'est pas un bonasse là. Il punit, il corrige dans un amour pour sauver. C'est vraiment merveilleux.
Dernièrement, on discutait là. Comment ça veut dire que beaucoup de personnes ne comprennent pas la discipline. C'est dommage.
Et c'est tellement sans ça, on est perdu. Ah, c'est loin d'être facile, mais tellement nécessaire et important. Et preuve d'amour, je dirais. C'est une preuve d'amour. Pour ne pas se laisser aller à notre déchéance.
C'est ça qu'on comprend.
J'ai tellement plus à dire sur Exode 34, 6, 7. Que tout. Je pense que c'est mon texte préféré dans toute la Bible. Mais j'ai beaucoup de textes préférés. Mais. c'est mon livre préféré. C'est ce livre que je lis, il faudrait. Mais c'est vraiment important. Parce que si on ne comprend pas Exode 34, on ne va pas beaucoup comprendre pourquoi Israël fait appel à cela. Israël est en train de mettre tout le coup, ils ont la loi. Parce que même ils le servent. Ils l'ont. Ils ont accès. Et c'est ça que, des fois, on ne comprend pas. Ils ont accès. Ils commencent à le suivre. Le narrateur est en train de nous dire, ils ont servi l'Éternel malgré l'oppression. 17-18. Qui pourrait lire 17-18.
Les Ammonites se regroupèrent au campement de Galaad et les Israélites se rassemblèrent et campèrent à Mitzpa. Le peuple des princes de Galaad se tirent les uns aux autres. Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les Ammonites? Il sera chef de tous les habitants de Galaad.
Donc, là, je vais aller un petit peu plus rapide parce que on va aller adorer en haut. Contrairement au cycle, Dieu tarde, mais cela révèle un vide de leadership spirituel. Vous voyez, ils servaient l'Éternel, mais ils ont encore une menace en Amnon. Amnon va encore rentrer dans Israël encore et faire sa tournée d'Israël. Traverser le Jourdain, aller en Éphraïm, aller en Juda. Et ça, c'est gros. Ça c'est vraiment une domination. Hein? C'est pas juste une région. Le peuple dépend de médiateurs humains au lieu de se soumettre pleinement à Dieu. Ils ont une lacune là. Au lieu de crier encore à l'Éternel, qu'est-ce qu'on doit faire? Non. Qui va venir? Il sera notre chef. Mais ils ont déjà un roi. C'est l'Éternel. Donc malgré leur repentance, ça n'enlève pas qu'ils ont des choses à apprendre.
C'est le même. C'est le même. On veut se lever dessus.
Ils ont besoin d'un libre. Exactement. On est trop pressé. Ils ont besoin d'un libérateur pour leur péché, qui est Christ, ce que Christ va venir. Matthieu 1, 21. C'est lui qui va venir nous délivrer de notre péché. C'est à cause du péché que le cycle continue et continue et continue. Ils ont besoin d'un vrai libérateur.
Ça s'est attaché à nous.
Oui. S'attacher. Donc j'aimerais, pour finir, avant de prier, oui, vas-y. Juste 10 montre que le peuple de Dieu peut s'enfermer dans un cycle de répétitif, chute, détresse, cri, délivrance. Donc cherchons Dieu, pas juste la délivrance. Abandonnons concrètement nos idoles, persévérons, même sans réponse immédiate, pour produire des fruits visibles. Et j'aimerais vous laisser avec mon dernier verset. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Prions. Papa éternel, tu es grand. Tu es celui qui est le libérateur. Tu nous as envoyé Jésus. Et merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta parole qui dure, qui ne change pas. Sans toi, on n'est rien, Père éternel. Et, dispose nos cœurs à t'adorer. Parce que tu as envoyé Jésus qui est venu, qui est mort et qui est ressuscité, Seigneur, et qui vit à jamais et qui intercède pour nous, pour ton peuple. Et nous, Seigneur, à disposer nos cœurs à t'adorer. Que toute gloire va à toi, dans ton Fils qui est vivant et qui revient bientôt. Amen.